Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte le naufrage du Titanic à travers le témoignage d'un jeune rescapé américain de 17 ans qui s'appelle John Taylor. Témoignage que je tire du livre Rescapé du Titanic, édité par Ramsey en 1998. John Taylor, qui n'est pas parvenu à monter à bord d'un canot de sauvetage et qui a fini par sauter à l'eau juste avant que le navire ne sombre. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 10 avril 1912, nous sommes quatre à embarquer sur le Titanic pour sa traversée inaugurale. Mon père, John Borland Taylor, second vice-président des chemins de fer de Pennsylvanie. Ma mère, Marianne Longstreet Morris Taylor. Sa femme de chambre, Margaret Fleming. Et donc moi-même, John Taylor. Nous voyageons tous les quatre en première classe. Ce que j'ai ressenti en montant sur le bateau, un immense sentiment de sécurité. Un remorqueur nous tire jusqu'à l'étroit chenal du port de Southampton. Et maintenant, ça y est, le Titanic est autonome. Il prend un virage à tribord, et pour ça, il utilise son hélice de bâbord. Et là se produit un incident de mauvais augure. Mais ça, on ne le saura que trop tard. L'hélice provoque un gros remous. Un bateau à vapeur américain, le Saint-Paul, qui est amarré à un autre paquebot, se met à tanguer, et soudain, ses amarres se rompent. Et le Saint-Paul se met à dériver, droit sur le Titanic, et à bonne vitesse. Il va nous heurter. Il est à 10 mètres, 5 mètres, 3 mètres, 2 mètres. Et là, ouf, des remorqueurs parviennent à le détourner. Nous faisons étape à Cherbourg, en France, puis à Queenstown, près de Cork, en Irlande. Et le mardi 11 avril, à 1h30 du matin, nous nous lançons dans la traversée de l'Atlantique. Le temps est splendide. La statue de la liberté nous attend. J'occupe une cabine de luxe, juste à côté de celle de mes parents, sur le pont C, côté bâbord. J'ai 17 ans. Évidemment, je parcours le bateau de long en large. Le dimanche 14 avril, quatrième jour de mer, dès l'aurore, la journée s'annonce magnifique. Je passe la matinée et une partie de l'après-midi à flâner d'un pont à l'autre avec mes parents. On croise l'armateur du Titanic, John Bruce Ismay.
Monsieur et Madame Taylor, quel plaisir.
Alors, comment se passe le voyage?
Parfaitement bien, Monsieur Ismay. On ne peut pas rêver mieux.
À tout à l'heure. Nous passons aussi un moment avec Charles Hayes, le président des chemins de fer canadiens. Et puis en fin d'après-midi, je me souviens, nous croisons à nouveau sur le pont Monsieur Ismay.
Ah, mes amis,
nous allons bientôt croiser la glace. Je viens de recevoir un câble. Nous croiserons la glace, je pense, ce soir, vers 9h. Rien d'anormal, hein? Rassurez-vous. À ce moment-là, le temps se met à fraîchir, assez nettement. Et nous rejoignons nos cabines pour nous habiller pour le dîner. Au dîner, mes parents sont invités à une autre table. Et donc je dîne seul, à la nôtre. Et j'en suis au café, quand un homme, la trentaine, m'aborde.
Bonjour. Vous êtes seul?
Moi aussi, je voyage seul.
Je peux m'asseoir?
Je me présente. Milton Long. Je suis le fils du juge Charles Long de Springfield, dans le Massachusetts.
Et on parle pendant une heure environ, tous les deux.
Voyons-nous à l'occasion.
D'accord, avec plaisir.
Et après, je vais me chercher un manteau. et je sors faire quelques pas sur le pont. Il fait beaucoup plus froid que tout à l'heure. C'est une nuit sans lune avec un ciel limpide, piqueté d'étoiles qui brillent comme des diamants. Une petite brume flotte sur la mer. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais plus la mer plus paisible que cette nuit-là. Je rejoins ma cabine vers 11h et je passe voir mes parents à côté. Papa, maman, je me couche. Bonne nuit.
Bonne nuit, mon chéri.
Bonne nuit, mon grand.
Dans ma cabine, je passe mon pyjama, j'entr'ouvre le hublot pour prendre un peu d'air frais. La brise est légère. Je tombe de sommeil. Jusque-là, les nuits précédentes, j'ai très bien dormi. Je remonte ma montre, elle indique 00h15. Et là, je veux me glisser dans mes draps, et je vacille. Un choc très léger. Et ensuite, l'impression que le bateau est dévié par bâbord, écarté par quelque chose. Et d'un coup, les machines s'arrêtent. C'est déroutant, ce calme, ce silence. Et là, j'entends des gens qui courent dans les couloirs et des voix étouffées. À un moment, les machines se remettent en route, mais pas comme d'habitude, sans les mêmes vibrations. Et puis elles s'arrêtent à nouveau. Je ne suis pas du tout inquiet, hein. Plutôt excité, en vérité. J'enfile un pardessus sur mon pyjama et des pantoufles.
Papa ? Maman, je vais voir sur le pont ce qui se passe.
Écoutez, garçon, j'arrive. Hein, je m'habille et j'arrive, je vous rejoins.
J'arrive sur le pont. Et il fait un froid glacial. Je fais quelques pas, je regarde par-dessus bord. À l'avant, rien. Rien à signaler. Rien qui ressemble à un iceberg. Si des formes sur le pont inférieur. J'apprendrai plus tard que c'était des morceaux de glace. Mon père arrive à son tour. Et d'autres comme nous qui veulent savoir ce qui s'est passé. Et là, on croise un membre de l'équipage.
On vient de heurter un iceberg.
Il est tout près. Normalement, vous devriez le voir.
Il est par là.
Mais avec les lumières sur le pont, on ne voit rien. Et pourtant, la nuit est claire, hein? Mais on ne le voit pas. Un quart d'heure plus tard, le Titanic se met à pencher à bâbord, tout en s'inclinant vers l'avant. Mais personne ne pense que la situation est sérieuse. Le Titanic est insubmersible. Il est minuit passé. Avec mon père, on quitte le pont et on regagne la coursive et le salon. Autour de nous, les gens ne savent pas quoi penser. Et là, on croise l'armateur Ismay et l'un des officiers, M. Andrews. C'est lui qui lâche le morceau.
Si vous voulez mon avis, le bateau ne va pas tenir plus d'une heure.
Et moi, je suis toujours en pyjama sous mon pardessus.
S'il vous plaît ! S'il vous plaît !
Merci !
S'il vous plaît, que tout le monde aille s'habiller et revête un gilet de sauvetage. Vous en trouverez dans vos cabines.
Quand on arrive à nos cabines, ma mère et sa femme de chambre sont déjà habillées. J'enfile à la hâte un costume 3 pièces de tweed vert, une surveste de mohair et puis je remets mon manteau. J'attache mon gilet de sauvetage constitué de gros morceaux de liège et par-dessus je mets un imperméable. Et tous ensemble, on court vers le salon du pont A. Où il y a déjà beaucoup de monde. Et là, je croise mon nouvel ami, Milton Long, avec qui j'ai dîné.
Oh, John, est-ce que je peux me joindre à vous ?
Et l'orchestre qui continue de jouer, alors que personne ne l'écoute. On se retrouve tous sur le pont A. À ce moment-là, ma mère aperçoit les feux d'un bateau au large. À bâbord.
Ah, je l'ai vu, j'en suis sûr.
Elle n'est pas la seule. Mais moi, je n'ai rien vu. C'était les feux de tête de mât du Californian, un bateau vapeur américain. Il ne peut pas ne pas avoir vu les fusées de détresse que lançait le Titanic. Il ne peut pas ne pas avoir entendu le code CQD qu'il diffusait en morse. Mais le capitaine n'a pas appliqué la plus vieille loi de la mer. Porter secours. Il aurait pu sauver 1500 vies humaines. Sur le pont A, l'équipage se met à retirer les bâches des chaloupes. Dans le calme, ils ont l'air de savoir ce qu'ils ont à faire. Il est maintenant 1h moins le quart. Le bruit autour est infernal. Les fusées de détresse, la vapeur qui sort des soupapes de sécurité, les gens qui crient, la tension qui monte. Au lieu de rester sur le pont, on décide d'aller sur la coursive, où il fait plus chaud.
Toutes les femmes à bâbord ! Les femmes à bâbord, allez-y !
Bon, eh bien, à tout à l'heure.
On dit au revoir à ma mère au sommet de l'escalier du pont A. Et on la voit partir vers bâbord avec sa femme de chambre. Et avec mon père, on va à tribord. Et on attend des ordres qui ne viennent pas. Il y a là 4 canots de sauvetage. Mais les hommes de l'équipage n'ont pas commencé à les descendre. On dirait qu'ils attendent des ordres. Et il y a de plus en plus de monde. Les passagers de 2e et de 3e classe viennent d'arriver sur le pont.
John, venez avec moi. On va aller voir si votre mère a trouvé un canot de sauvetage.
Pour ça, il faut passer par le couloir. Et là, on tombe sur le maître d'hôtel de notre salle à manger.
Est-ce que vous avez vu ma femme?
Je viens de la voir. Elle est encore sur le pont.
Il y a un problème avec les canots de bâbord. Comme le bateau penche, eh bien, ils penchent eux aussi. Il est impossible de les atteindre.
Tout le monde descend vers le pont inférieur, hein ? Vous montrez dans les canots là-bas !
On descend vers le pont inférieur, tous ensemble, avec ma mère et sa femme de chambre. Et quand on arrive dans le salon du pont B, au moment de passer la porte, des gens se glissent entre nous. Et mon père et ma mère sont emportés par la foule. Et Long et moi, on n'arrive pas à les rattraper. Je n'ai jamais plus revu mon père. Jamais. Il est maintenant 1h25 du matin. L'avant du bateau s'est beaucoup enfoncé. Et l'eau recouvre maintenant toute la proue. Le Titanic ne gîte plus à bâbord, mais légèrement à tribord. L'équipage a commencé à embarquer des passagers dans les canots et à les descendre. Des chaloupes de 60 personnes environ, mais les officiers hésitent à les remplir. Elles sont à 15 mètres de l'eau, ils ont peur que les cordages se rompent. Le premier canot descend avec 12 personnes seulement à bord. Et les suivants avec pas plus de 40 personnes. Et bientôt on les voit, à 500 mètres de nous, qui flottent. Sur le pont, les gens sont assez calmes. J'en vois un avec une bouteille de Gin Gordon à la main. Il la vide d'un trait. Les derniers canots sont chargés à ras-bord. Et là, les gens commencent à se bousculer. C'est devenu chacun pour soi. Et je vois Monsieur Ismay, l'armateur, monter de force à bord. 2 stewards du restaurant tentent alors de sauter dans un bateau à partir du pont. Le commissaire de bord leur tire carrément dessus. Il ne les touche pas, mais les 2 sont éjectés du canot. Avec Long, on s'interroge. Qu'est-ce qu'on fait?
Écoute, le bateau est en train de plonger vers l'avant. Moi, j'ai peur que si on prend une chaloupe, on n'ait aucune chance d'atteindre l'eau.
De toute façon, ils viennent de mettre le dernier canot à l'eau.
Qu'est-ce qu'on fait? On devrait se jeter à l'eau. C'est notre seule chance. On descend par les cordages qui penchent, et après on nage jusqu'au canot.
Non, John, pas ça. L'eau est glacée, moins 2 degrés au moins. On ne survivrait pas.
On reste jusqu'à 2h du matin à parler.
Si je ne m'en sors pas à Londres, et vous, oui, vous pourrez dire à mon père combien je l'aime.
Mais au fond de moi, je me dis qu'on a une chance. Une chance. Il faut nous tenir à l'écart de cette foule. Éviter l'effet de succion que produira le navire quand il sombrera. Il est maintenant près de 2 heures moins le quart. Et le Titanic continue de s'enfoncer vers l'avant, de plus en plus vite. L'eau a atteint la passerelle du commandant. Elle la recouvre d'une bonne 20aine de mètres. Et la masse des gens a reculé vers la poupe émergée. Une masse humaine hébétée, sans espoir. Le rugissement de la vapeur s'arrête d'un coup. Et on entend comme un grondement sourd qui monte des entrailles du Titanic. Et le bateau se met à pencher à l'avant. Il s'enfonce. L'eau se précipite vers nous. À ce moment-là, avec Long, on est à la hauteur de la deuxième cheminée. Notre idée est de se jeter à l'eau quand le bateau coulera. On se jettera au dernier moment, quand on sera à quelques mètres de l'eau. Et c'est maintenant. Bonne chance, Long. Bonne chance, John. J'enlève mon manteau. Long a déjà grimpé sur le bassingage. Et il se laisse descendre le long d'un cordage. Je m'assois sur la rambarde, face au large. Je suis à 3 ou 4 mètres de l'eau. Et je saute. Je saute le plus loin possible. Long, à mon avis, a dû être aspiré vers l'intérieur. Je ne l'ai jamais revu. Alors que moi, j'atteins l'extérieur de l'entonnoir formé par le tourbillon. Le froid est horrible. Je m'enfonce très loin dans l'eau glacée, très loin. Je remonte à la surface. Mes poumons sont en feu. Mais je n'ai pas bu la tasse. Et je me mets à nager le plus loin possible. Je suis à 40 mètres du Titanic. Je nage. Et je vois le paquebot dans une sorte de halo. Et soudain, on dirait qu'il se coupe en deux, en son milieu. La deuxième cheminée se soulève dans un nuage d'étincelles. Et elle tombe à quoi ? 7, 8, 9 mètres de moi. Les remous qu'elle provoque m'entraînent à nouveau vers le fond. Je me débats, je remonte les bras au-dessus de ma tête pour me protéger de tout ce qui pourrait me blesser. Et là, sous mes doigts, je sens quelque chose de doux, de ferme, d'arrondi. Un bateau ! Le fond de liège d'un bateau pliable retourné. Et là, je vois 4 ou 5 hommes qui tentent de grimper sur cette coque. J'essaye de me lancer hors de l'eau, mais je suis à bout de force. S'il vous plaît, quelqu'un peut me donner la main ? Quelqu'un me tend la main et je me retrouve sur le fond retourné de ce bateau, accroupi et en vie, face au Titanic qui est à quoi ? 20 mètres ? Le pont regardait légèrement vers notre radeau et je voyais les gens agglutinés à l'arrière. Il devait être près de 1500 à s'accrocher par grappes qui finissaient par tomber au fur et à mesure que les 80 mètres formant l'arrière du bateau se levaient dans le ciel. À ce point, le paquebot sembla faire une pause et rester suspendu comme cela pendant un temps qui me parut durer plusieurs minutes. Pivotant peu à peu sur son axe, il se détourna de nous comme s'il voulait cacher à nos regards le pont et le monstrueux spectacle qui s'y déroule. Et nous, on a un aviron, mais on est de plus en plus entraînés par cette masse pivotante. Je lève les yeux, on est sous les 3 énormes hélices. Et là, dans un fracas, le paquebot s'enfonce dans l'eau et disparaît. Je ne me souviens pas du tout de ce que nous avons pu dire, crier, ou raconter de fou sur notre coque retournée. Mais je me rappelle le soupir qui s'exhala de nos poitrines quand le bateau eut disparu. Une minute s'écoule dans un silence de mort.
Au secours ! Au secours, je vous en prie ! Au secours !
Je les entends crier comme ça pendant 20, 30 minutes. Et puis plus rien. Et aucun des canots à demi remplis qui sont là, je les vois, n'essaye de s'approcher pour leur porter secours. Aucun.
Ils ont entendu les cris. Ils n'ont pas bougé. Comment on peut expliquer ça? Nous, on aide un maximum de gens à se hisser sur notre coque retournée. On est 28 maintenant. Je suis à genoux et derrière moi, quelqu'un se tient à mes épaules. Et on chante des cantiques et on récite des prières. Avec nous, sur la coque retournée, il y a Harold Bride, l'un des opérateurs radio du Titanic.
Je sais que j'ai réussi à avoir plusieurs bateaux tout à l'heure. Et notamment le Carpathia. C'est un bateau à vapeur. Je lui ai donné notre position. Il va arriver. Patience, il va arriver. Il devrait être là vers 4 heures. Et on devrait voir ses lumières.
Il avait raison. Un peu avant 4 heures, on aperçoit à l'horizon les feux de tête de mât du Carpathia. Et on lui fait une ovation. Mais on dirait qu'il fait du surplace. Et puis quand le jour se lève, on le voit s'approcher des canots de sauvetage et hisser les rescapés à bord. Et nous, pendant ce temps-là, on s'enfonce. Vers 6h30, quelqu'un sur la coque trouve un sifflet. Ça y est, les autres canots nous ont vus. Et deux canots à moitié remplis de femmes s'approchent à coups d'aviron. C'est long. Le premier canot finit par embarquer la moitié d'entre nous, et le second charge le reste du groupe. À ce moment-là, le soleil perce à l'horizon, et je comprends que je vivrai encore. Quand je me hisse à bord du Carpathia, vers 6h30, la première personne que je vois en haut de l'échelle, c'est ma mère.
Où est votre père, John?
L'ai pas revu, maman. Ils m'ont servi du café arrosé de brandy. Je n'avais jamais bu d'alcool. J'ai eu l'impression d'avaler des braises. Et achevé par l'alcool, j'ai dormi jusqu'à midi. J'ai tiré ce récit du livre Rescapé du Titanic, édité par Ramsay.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.